Témoin privilégié d'une époque à la fois riche et douloureuse, Serge Moscovici nous conduit sur les chemins du souvenir de son enfance roumaine à Paris. Il est le guide de cette histoire qui est un peu la nôtre.
Serge Moscovici, bonjour.
Bonjour.
Alors nous avons laissé lors de notre dernier épisode Gigi, c'est votre nouvelle compagne. C'est elle qui vous fait découvrir un monde nouveau, la nouvelle génération, celles et ceux qui ont votre âge mais qui ne font pas forcément partie du même monde.
Oui, c'est le monde de la nouvelle jeunesse, de la nouvelle bohème ou... Et puis aussi de la nouvelle classe qui va monter petit à petit vers le pouvoir. Et j'étais un peu, disons, déplacé dans cet univers. Non pas parce que je n'étais pas mondain, je ne savais même pas ce que ça voulait dire, mais parce que c'était un monde qui avait à la fois une sorte de fringale de vivre après la guerre, mais aussi une sorte d'ambition. Et je me suis senti étranger dans ce monde, à la fois parce que j'avais l'impression que je n'avais rien avec eux, et en même temps parce que je me sentais une sorte de proie. Proie de mes propres désirs, proie de cette ambition qui tournait autour, proie des différentes relations ambiguës qu'on pouvait avoir avec les gens. Et donc, après, je ne sais pas, une période, peut-être 8 mois, 1 an, j'ai quitté ce monde, je ne voulais plus.
C'est les premiers voyages, l'heure des premiers voyages, des premiers vrais voyages. Ça ne se passe plus entre Bucarest et la Bessarabie, mais là, vous dépassez les frontières et au sein donc de votre parti, vous nous l'avez expliqué la fois dernière, vous accompagnez notamment des immigrants, des nouveaux immigrants jusqu'à Vienne, et c'est donc la découverte de Vienne.
Oui, alors il faut que j'explique quelque chose, c'est-à-dire que ces mouvements sionistes, et je ne sais pas, toutes ces constituaient à ce moment-là des réseaux à travers toute l'Europe. Je ne vais pas entrer ici dans les détails. Et donc, un jour, Dorberger me demande d'accompagner des gens et d'aller jusqu'à Vienne. Et alors, donc, je traverse les frontières, puisqu'on partait sans aucun passeport, mais juste avec un zettel.
C'est-à-dire ?
C'est une lanière de papier sur laquelle il avait écrit quelque chose. Et donc, j'arrive d'abord à Budapest, j'y reste un certain temps. C'est un des plus merveilleux séjours que j'ai fait dans ma vie, parce que c'était à la fois la découverte d'une ville étrangère et c'était une ville très gaie. Et aussi, en même temps, pour la première fois, je rencontre des gens. D'ailleurs, je vis chez une dame qui sortait des camps de concentration. Et là, de là, je pars à Vienne et c'est la découverte, effectivement, de Vienne. Mais la découverte de Vienne après-guerre, c'est un peu le troisième homme d'Orson Welles. C'est-à-dire à la fois une ville un peu bombardée, mais surtout une ville occupée par les Russes, les Français, les Anglais, les Américains. C'est la soldatesque, si vous voulez, qui occupe cette ville. Et aussi, la première fois aussi, de la rencontre avec des juifs qui venaient de Pologne, d'Hongrie, etc., parce qu'il y avait à Vienne un centre qui était situé à l'hôpital Rothschild, pas loin de l'endroit où avait habité Freud, de la Berggasse ou Bergstrasse. Et donc, c'est la première fois que je rencontre le monde occidental. Ça, c'est important. Il y a quand même une différence très marquante, très profonde entre, je dirais, l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest. Là, c'est mis de l'Europa. Et donc, un autre style de vie, une autre approche des gens, une sorte de la présence de ces cathédrales magnifiques, de ces palais. Mais c'est surtout une sorte de plongée dans une marée humaine, dans cette ville, qui m'avait complètement fasciné et absorbé.
Le joint, quel est son rôle dans ces voyages de nouveaux immigrants?
Ah, le joint a joué un très grand rôle. Moi, je ne l'ai pas connu de près. Hein. D'abord, joint était la source financière. Joint était l'adresse où on allait. N'importe quel juif en Europe à ce moment-là. Le joint était le chocolat, le nylon. C'était une sorte de PX pour les juifs. Et donc, mais c'était en même temps une sorte de centre de sécurité, si vous voulez, où on arrivait.
Parce qu'il s'est chargé aussi du transport de ces personnes.
Alors, le rôle de joint, je n'ai pas eu de rapport direct avec eux. Le joint, je pense, fournissait les camions, puisque lorsqu'on arrivait à la frontière autrichienne en Hongrie, on traversait la zone soviétique. Et là, c'était un endroit très dangereux à traverser. Et nous les traversions, je pense, dans les camions américains, qui étaient les camions du joint. Je crois, mais les rapports entre les joints et les autres organisations juives, ça, c'est une autre histoire. Je ne sais pas si quelqu'un a écrit cette histoire-là.
Alors clairement, à partir de 45, vous vous rendez compte de la vérité sur les horreurs de cette guerre.
Oui, c'est à partir de...
Et c'est un choc hein, pour vous.
Ah, le choc, ce n'est pas le terme, c'est une sorte de bouleversement très, très profond. Parce que je n'ai pas pensé que c'était humainement possible ce que j'ai vu, ce que j'ai appris. Mais je dirais deux choses. C'était un bouleversement dans les deux sens du mot. À la fois, c'était la bouleversée parce que j'ai aussi réalisé ou exprimé pour la première fois une sorte d'attachement juif conscient. J'étais attaché au judaïsme inconsciemment, mais là, conscient parce que j'ai rencontré d'autres juifs qui ont eu d'autres histoires et avec lesquels je me sentais, comme on dit en yiddish, brider, enfin un frère, vous voyez, quelque chose. Ça, c'était un bouleversement dans ce sens-là aussi, de cette proximité, de cet attachement avec des gens que vous n'avez jamais connus, qui ont vécu une autre histoire, etc. Et bouleversement aussi, parce que je ne l'imaginais pas, c'était très difficile d'imaginer, malgré tout ce qu'on a connu, ce qui s'est passé dans les camps d'extermination. Moi, je n'ai pas vu les camps d'extermination, mais j'ai vu les gens qui en sont sortis.
Steht bloß vor Zeugen, wird grüner das Bläu und bläuer das Grün. A bläuliche Bleichkeit verspreit sich in dir, wird schotten dick dunkel, verhocknet der Bäu. A finstere Stillkeit zergießt sich geheim, wird Kielkeit, Stillkeit mit Zeudes vertraut, fallt zu die Nacht. Im Mittenhimmel steht Wohn, steht Bläufer Zeugen, vertriner das Bläu und bläuer das Grün. A bläuliche Bleichkeit verspreit sich in dir, wird schotten dich dunkel, verwolkend der Bäume, a finstere Stillkeit zergießt sich geheim. Wer Kielkeit und Stillkeit mit Seudes vertracht, fällt zu die Nacht.
Alors, quand vous revenez de Vienne, la première personne à qui vous allez raconter ce voyage, c'est bien sûr votre tante qui est très assoiffée de ces récits.
Oui, c'est à elle que je raconte mes voyages. Parce que je suis rentré assez triste, finalement. J'étais assez démuni, si vous voulez. C'est drôle parce que la première question, une des premières questions qu'on a posées, mais dans quelle langue tu as parlé avec eux? Et effectivement, on parlait dans plusieurs langues en même temps. Et je lui avais parlé aussi à ce moment-là du fait que j'avais cette impression que nous n'avons pas connu la guerre. Parce que nous n'avons pas connu la destruction. Parce que nous n'avons pas connu la déportation. Parce que lorsque je suis arrivé à Budapest, la ville était détruite. Nous avons eu peur. Mais nous n'avons pas été déportés, nous n'avons pas connu la destruction des familles, la destruction, la disparition de tant de gens. Et aussi, je me suis en même temps demandé d'où venait cette vitalité. Je lui ai parlé de ça. Je parle dans mon livre, mais peut-être pas assez. Ce qui m'avait aussi frappé d'emblée, cette énorme vitalité, cette fantastique vitalité des Juifs, enfin de ceux qui sont sortis des camps.
Mais est-ce qu'ils parlaient?
Oui, beaucoup. Vous savez, cette histoire que les gens ne parlaient pas, etc., je ne comprends pas d'où elle vient, parce qu'on a publié beaucoup de livres immédiatement après la guerre. Les gens parlaient entre eux, parce que lorsqu'il y a une chose que les Juifs aiment bien, si je puis dire, c'est de montrer leurs blessures. Enfin, je veux dire, et donc, bien sûr, les gens parlaient. Tout le monde savait ce qui s'était passé. Mais en même temps, ce qui est extraordinaire, c'est que malgré toutes ces épreuves que les gens ont connues, ils ne sentaient pas, comme on dit aujourd'hui, victimes. Hein, ils ont connu un drame affreux, une tragédie, qu'on ne peut pas raconter vraiment. Hein. On ne peut pas raconter parce qu'il y avait tant de choses qui se sont passées. Vous savez, c'est la déportation n'était pas une chose qui se passait entre... On rentre dans le wagon et on sort devant la chambre à gaz. Il y a eu quand même toutes les pérégrinations des gens de Lituanie, de Lettonie, de Pologne, enfin, ceux qui ont fui, ceux qui ont été mobilisés par les Russes. Enfin, c'est une histoire extrêmement compliquée. Et finalement, chacun se trouvait à vous parler d'une existence qui était à ce moment-là faite de briques et de brocs et qui n'avait pas rangé dans un discours. Mais les gens parlaient, bien sûr que les gens parlaient. De quoi auraient-ils parlé? Ils n'auraient pas parlé du beau temps. Je dirais la pluie et de beau temps, bien sûr.
Alors, en Roumanie, la vie continue, votre vie de jeune homme continue, et vous vous retrouvez traîné par Gigi. Je ne sais pas si c'est Gigi qui vous demande d'aller avec elle ou si c'est vous qui l'entraînez. En tout cas, vous vous retrouvez dans un concert et il y a un vieux monsieur et un tout jeune monsieur. L'un d'ailleurs est l'élève de l'autre. L'un s'appelle Enesco et l'autre Ménouine.
Oui, c'était un concert fantastique et je me souviendrai toujours. C'est moi qui ai amené Gigi parce qu'il fallait avoir des billets pour y entrer. Et là, c'était un concert où Yehudi Menuhin, qui a été l'élève de Enesco, donnait un concert, je pense, en son honneur. Et alors, ce dont je me souviendrai toujours, enfin maintenant, je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre, mais enfin, je m'en souviendrai toujours de ce jeune homme et de ce vieil homme, l'un à côté de l'autre, et leurs mains. C'est le fait qu'ils se soient donné la main. Et qu'il y avait une sorte de symbolique de réconciliation, mais de réconciliation entre quoi, entre qui et qui, entre le maître et l'élève, entre le juif et le non-juif. Et c'était un concert où il y avait tout le monde. Enfin, c'était une sorte de parade assise où tous ces généraux, tous ces personnages importants étaient là entre eux. Et je ne sais pas s'ils ont été sensibles à la symbolique de cette rencontre, mais pour moi, ça a été quelque chose d'extraordinaire.
Serge Moscovici, lors de notre prochain épisode, eh bien, nous vous suivrons en Allemagne.
Oui.
Chronique des années égarées, Serge Moscovici, édition Stock, un feuilleton présenté par Paul-Henriette Lévy.
Réalisation technique, Jean-Philippe Andlicher.